m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et vous êtes sur Radio Courtoisie, nous sommes jeudi, qui dit jeudi à 17h30 dit Restons Courtois, et qui dit jeudi donc dit le Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie, je suis en plateau avec Valentin Gore. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc.
Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles qui nous racontera dans quelques instants la rentrée politique de David Lisnard, puisque Valentin a suivi ça pour VA. On va parler évidemment énormément de cette une de VA, l'école libre contre-attaque, évidemment rentrée scolaire oblige. Petit point sur l'actualité de l'école, sur l'éducation nationale qui poursuit sa chute et sur les écoles libres qui constituent année après année une alternative de plus en plus crédible, tellement crédible qu'elle subit les foudres d'une partie du bloc central, mais aussi évidemment de la France insoumise pour qui l'égalitarisme prime définitivement sur la liberté. On en parlera bien évidemment avec Marie de Greff Madelin, la rédactrice en chef société de Valeurs Actuelle, et aussi avec Augustin Yvan, directeur du développement de la Fondation pour l'École. Avec lui, nous reviendrons justement sur les objectifs de cette rentrée, sur les enjeux, sur les attaques aussi subies par l'école libre. Puis, rentrée politique oblige, nous parlerons évidemment avec Guillaume Bernard en dernière partie d'émission de cette campagne présidentielle qui a commencé très tôt, très très tôt. C'est sans doute du jamais vu, c'est dire à quel point certains sont pressés ou certains se sentent menacés. Et entre-temps, nous recevrons l'avocat Pierre Gentillet, également candidat aux élections législatives puis municipales pour le compte du Rassemblement National. Avec l'avocat, nous reviendrons sur la polémique lancée par le Rassemblement National sur le voile. Nul doute qu'il nous éclairera de ses lumières et surtout des objectifs politiques et des enjeux de tout cela. Nous aurons également notre cher Nicolas Boutin, le patron de VA Région. Avec lui, nous reviendrons toujours sur l'Assemblée nationale, puisque nous reviendrons sur leur campagne des sénatoriales, une campagne à grand enjeu pour le RN dont l'objectif sera en tout cas de constituer un groupe au Palais du Luxembourg, objectif qui n'a jamais été rempli par le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Nous sommes donc en pleine rentrée, Valentin Gore. Nous courons les rentrées politiques diverses et variées.
Ah oui, ça y en a. Hein.
J'étais par exemple à Blois pour le Parti Socialiste, à Sens pour Jean-Michel Blanquer, et vous étiez à Cannes pour la rentrée de David Lisnard.
Ah oui, ça, du point de vue de la météo, j'ai tiré le bon lot pour ce premier week-end, ça c'est certain. Écoutez, alors David Lisnard, c'est un personnage intéressant, parce qu'il est pour l'instant... alors jusqu'ici, il n'était pas du tout mesuré dans les sondages, puis 1%, aujourd'hui 3-4% dans les premiers. Donc un candidat qu'on pourrait dire a priori un peu marginal, mais qui y croit et qui a en même temps quelques cartes dans son jeu, parce qu'il a été par exemple le premier à annoncer ses 500 parrainages, promesse pour l'instant, mais enfin il est en bonne voie de les obtenir puisqu'il est président des maires de France. Il a quand même un peu d'argent en banque et il a de quoi faire campagne. Alors toute son idée, c'est ce qu'il a dit donc samedi dans sa ville de Cannes avec ses partisans, dans un meeting qui était d'ailleurs assez réussi sur le plan formel, qui s'est déroulé dans une clairière aux abords de Cannes. Il a exprimé de nouveau son envie de réaliser une primaire, une très large primaire qui irait alors dans son idée de Gabriel Attal à Sarah Knafo, avec comme objectif d'avoir un seul candidat au milieu de tout ça, et lui espère évidemment à cette occasion se faire mieux connaître, parce qu'il a encore un petit déficit de notoriété, et puis surtout faire avancer ses idées. Alors c'est un pari hasardeux, mais en tout cas c'est le sien, et voilà, avec un projet évidemment qu'on connaît, hein, un projet libéral, capitalisme populaire, création d'un très grand ministère de l'instruction publique qui fusionnerait beaucoup de ministères, des internats d'excellence en ruralité. Voilà, il présente ses mesures, puis moi je l'ai vu le lendemain, il avait l'air assez déterminé. Et puis surtout, voilà, encore une fois, il a une petite structure, mais qui lui permet d'être candidat jusqu'au bout s'il le souhaite.
Alors évidemment, il y aura l'enjeu des 500 signatures, vous l'avez évoqué, mais c'est vrai qu'en tant que président de l'AMF, il ne devrait pas manquer de relais. il est un petit peu entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau, ou alors il est à la droite de Bruno Retailleau. C'est vrai que d'un point de vue, alors vous l'avez dit, il est très libéral, mais à la limite, j'ai envie de dire pas plus, pas moins qu'un Éric Ciotti, par exemple. On le situerait où sur l'échiquier politique à droite, David Isnard?
C'est tout à fait amusant, parce que alors vous aviez à ce meeting cannois une vidéo de Jean-Louis Borloo qui devait être là et qui finalement s'est contenté d'une vidéo de soutien, d'appui. Donc quand même un centre avec par exemple quelqu'un comme Hervé Morin qui préside la région Normandie et vraiment un centriste qui le soutient. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez des gens comme Sarah Knafo qui le trouve intéressant, lui-même revendique de parler avec elle. Il a moins de pudeur de gazelle que d'autres LR. Alors, il est plus chez LR, mais enfin, il est moins gêné aux entournures. Il n'a pas cette espèce de front républicain vis-à-vis du RN. Il a une approche beaucoup plus constructive là-dessus. Donc, c'est finalement toute sa difficulté. C'est-à-dire qu'il peut plaire potentiellement à un électorat très large, peut-être un peu trop, hein, entre les centristes très consensuels, puis une droite beaucoup plus affirmée. C'est aussi peut-être la preuve d'un léger flou entre le libéral qui parfois est tenté d'avoir des sorties un peu à la Milei, comme le président argentin, et le président des maires de France, qui forcément doit être beaucoup plus patelin, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus notable, entre guillemets.
Certains observateurs diraient que ceci est de sa part aussi une tentative d'exister, évidemment, sur le paysage politique, et pourquoi pas être en bonne position pour avoir un ministère, ou voire même plus, hein, voire pourquoi pas Matignon, dans un gouvernement dont le président serait Édouard Philippe ou Bruno Retailleau.
Alors écoutez, en tout cas, lui a dit qu'il ne figurerait jamais dans un gouvernement du bloc central, et alors on peut le croire ou non, moi j'ai quand même envie de penser qu'il y a du vrai, parce que ça tient à son caractère. Alors c'est aussi un défaut qu'il a, c'est que c'est vraiment un indépendant. Il a un petit côté Bayrou là-dessus. C'est-à-dire il préfère rester maire de Cannes, un peu dans son coin, mais c'est pas quelqu'un qui a tellement envie de se mettre au service d'une autre personne. Voilà, il a été approché par Emmanuel Macron à plusieurs reprises, il a pas donné suite. Parce que peut-être ça tient, en tout cas c'est ce qu'il m'expliquait, son passé de commerçant. Voilà, c'est un petit commerçant dans l'âme. Il a eu des magasins à Cannes. Et il n'est pas tellement habitué à travailler pour quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi ce pourquoi il joue un peu une carte très personnelle.
Cette émission, évidemment, chers auditeurs, est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Gros match à droite, donc Valentin Gore. Est-ce qu'on... On parle, vous avez évoqué Sarah Knafo, on a vu qu'elle a sorti un livre, donc le casse du siècle, un livre dans lequel finalement elle rejoint un petit peu toutes les théories libérales d'un État obèse qui ferait de la dépense publique une forme de drogue. Est-ce que on dit souvent qu'il y a évidemment beaucoup de points communs entre ces deux candidats, entre ces deux personnalités politiques? Est-ce que un rapprochement pourrait être observé? En tout cas, est-ce que David Lisnard, par exemple, pourrait travailler avec Sarah Knafo?
Ah bah lui dit que oui. Il dit, en tout cas, c'est les mots qu'il emploie qui sont cités dans l'article de Valeurs Actuelles, qui pointe une relation très positive avec Sarah Knafo, comme avec Jean-Louis Borloo. Voilà, je reviens sur cette. Il va falloir réunir les deux bouts de l'omelette, comme on dit. Mais oui, bien sûr qu'il y a une espèce de constat commun qui est même beaucoup plus large, hein, parce que si vous regardez des gens comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal, c'est un peu plus libéral que moi, tu meurs. Ou même un peu Marine Le Pen dans cette rentrée du MEDEF, où on l'a vu attaquer le nombre d'agences, avoir comme ça des propos qui sont d'habitude l'apanage de libéraux. On voit bien qu'il souffle quand même cette petite ce vent libéral en ce début de campagne, mais c'est là souvent le cas dans les campagnes présidentielles, parce que ça fait bien de dire on va tailler dans la bureaucratie, ça coûte pas très cher, hein, de dire ça a priori. C'est toujours beaucoup plus difficile à faire une fois qu'on a gagné l'élection.
Et c'est toujours le problème avec les idées libérales, c'est que dans l'absolu, quand vous dites je vais tailler dans les dépenses de l'État, c'est une très belle chose à l'oreille, mais quand in fine cela se traduit par une baisse de dépenses, des dépenses sociales, et par finalement un désengagement de l'État, en fait, sur certains dossiers qui semblent acquis pour la plupart des gens, et bah tout de suite, là, ça devient plus difficile parce qu'à un moment donné, c'est le temps de l'addition.
Ah bah totalement, et puis bah, vous savez bien qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous avez quand même... Combien de ministres ont raconté ça? Souvent des gens très bien qui arrivent un jour dans un ministère avec vraiment le projet de tout changer de fond en comble. puis alors vous avez l'inspecteur des finances qui vient vous voir et vous dire ah oui monsieur le ministre ça vous pouvez pas le faire parce que et à moins vraiment de sortir, et c'est pour ça que la présidentielle est intéressante, parce qu'on sait qu'en France le peu de réformes qui ont été faites souvent c'est dans l'année qui suit la présidentielle, voire même dans les 6 mois qui suivent la présidentielle, la fenêtre de tir est très étroite parce qu'ensuite très vite vous avez le cortège des corps intermédiaires qui se réveillent et qui a tendance à jouer les métabloquants.
Oui. Alors on conseille d'ailleurs pour les auditeurs qui seraient un petit peu faire une nouvelle technologie, il y a un mini-jeu très intéressant qui a été développé par un ancien conseiller de Matignon dont le nom m'échappe, mais je vous le retrouverai au cours de cette émission, qui s'appelle la bataille du budget.netlify.netlify. C'est un jeu extrêmement intéressant. On vous met dans la peau du premier ministre et du ministre de l'économie, et vous devez arbitrer les grandes dépenses de l'État. L'objectif étant évidemment un de respecter votre ligne et de rester en poste le plus longtemps possible. Et c'est extrêmement bien fait. Et cela montre aussi la difficulté de manœuvrer dans le monde politique et de partir avec de grandes idées et de dire je vais y aller à la tronçonneuse et au final on ne dépasse pas la saison 1. C'est très interactif, c'est très amusant. Vous pouvez soit avoir au cours de votre mission l'élection de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, soit avoir une majorité absolue ou non, ce qui va effectivement modifier votre approche du budget. Alors faut être très très intéressé par la politique et par les gros chiffres.
Oui.
Mais en tout cas voilà, pour ceux que ça intéresse, donc je répète, la bataille du budget.netlify.app, un jeu très intéressant et très interactif. Voilà, c'était la petite publicité gratuite sur laquelle je ne touche aucune commission. Et nous accueillons Marie de Greffe Madelin. Bonsoir Marie.
Bonsoir Marc.
Vous êtes la rédactrice en chef Société de Valeurs Actuelles et on vous doit en grande partie cette une, l'école libre contre-attaque. On va accueillir dans quelques minutes Augustin Yvan, directeur du développement de la Fondation pour l'école. En l'attendant, on peut peut-être un peu raconter ce qu'il y a dans ce dossier. On a envie de dire un dossier sur l'école la semaine de la rentrée. C'est vrai qu'on n'est a priori pas dans une originalité farouche, Marie de Greffe, mais néanmoins c'était nécessaire.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un marronnier.
Exactement. Ouais, je voulais pas perdre les auditeurs avec les termes journalistes techniques.
Non, alors je vous rassure, c'est loin d'être un marronnier parce que s'il est vrai qu'il y a des choses, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que les attaques finalement de l'État envers les écoles privées ne sont pas nouvelles. Que le niveau des élèves, certes, est en chute libre, ça non plus, ça n'est pas une nouveauté. Maintenant, ce qu'on apprend dans ce dossier, c'est finalement toutes les attaques beaucoup plus sournoises qui font qu'effectivement, l'école libre, aujourd'hui, est menacée. Et quand on dit école libre, on englobe évidemment les écoles privées sous contrat, mais aussi les écoles privées hors contrat, ce qui permet d'introduire notre nouvel invité, votre nouvel invité, Marc.
Absolument. Bonsoir, Augustin Yvan.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Directeur du développement de la Fondation pour l'école, vous êtes donc évidemment un défenseur de l'école libre dans tous les sens du terme. Comment vous avez vécu cette rentrée? Comment est-ce que vous voyez cette rentrée scolaire qui se passe avec évidemment son lot de polémiques, de mauvais classements et surtout ces interrogations? Quel avenir pour l'éducation en France?
Alors nous étions très heureux de cette une de Valeurs Actuelles puisque de fait l'école libre c'est un pan de l'école qui souvent est invisibilisé du fait qu'il ne représente que 2 millions sur les 12. Mais néanmoins, ce 2 millions, c'est l'aiguillon qui vient stimuler, justement, qui vient remettre en cause, qui vient montrer les failles du système public et qui œuvre à la complémentarité des acteurs. Nous, ce qu'on a vu à cette rentrée, c'est que ça a conforté des intuitions qui déjà plusieurs années se répétaient, depuis plusieurs années, notamment le fait que, je parle pour le hors-contrat, le privé hors-contrat cette fois-ci, les classes continuaient de s'ouvrir, 358 classes cette année, alors que dans le public et le privé sous contrat, les classes fermées. Alors pour le public, c'est par manque d'élèves avec la baisse démographique. Pour le privé sous contrat, c'est souvent le fait de l'État qui supporte mal la concurrence et qui du coup incite, selon la bonne vieille loi, le bon vieil accord Cloupé-Lang, de fermer des classes alors qu'il y a la demande. Mais donc il y a une vraie demande du privé, il y a une attente de la part des Français qu'on constate d'année en année qui se conforte. Et pour, à mon avis, 3 raisons majeures sont trop développées. La première, c'est qu'il y a une fracture de confiance entre les Français et l'école. On a réalisé un sondage IFOP en mai dernier sur le sujet. Il apparaît très clairement que sur les questions de sécurité, sur les questions d'autorité, les Français ne font plus confiance à l'école. Encore au printemps dernier, il y avait 186 armes blanches saisies dans les écoles suite à un contrôle policier un peu intensifié. Donc ça, le périscolaire parisien, il y a un ensemble qui fait que les Français n'ont plus confiance dans leur école. On les comprend parce que tout ça coûte cher. C'est la deuxième fracture, la fracture financière. Il faut savoir que pour 17% des élèves, 18% si on inclut le hors contrat, le privé ne représente que 9,9% de la masse budgétaire de l'éducation nationale. alors que le public représente tout le reste, c'est-à-dire 89,6 milliards. Donc c'est colossal pour des résultats beaucoup moins significatifs.
C'est vrai, quand on écoute les détracteurs de l'école libre, notamment à la France insoumise, mais pas seulement, on a l'impression que l'école privée déjà coûte cher, fait de la ségrégation scolaire et en plus coûte énormément d'argent public tous les ans. C'est-à-dire qu'en gros, quand on écoute Paul Vanier et d'autres députés, finalement l'État financerait une forme de séparatisme au sein de la République. Évidemment, on est bien loin de ces fantasmes-là.
On est très loin, on en est très loin et c'était très intéressant de lire ce dossier. À ce titre, j'avais eu déjà affaire à M. Vanier lors d'une interview au Figaro où j'avais avancé le chiffre de 10,7 milliards en disant voilà, c'est ce que le privé sous et hors contrat fait économiser à l'État. Eh bien oui, parce qu'il scolarise plus de 2 millions d'élèves et que si ce n'est pas le privé qui le fait, c'est l'État qui va le faire. Or, le coût d'un élève du public, c'est 10 000 euros contre 7 000 dans le privé. Donc évidemment, tout ça, c'est de l'argent, c'est de l'économie qui est faite, donc c'est une inversion accusatoire de la preuve. Mais bon, c'est pas la première fois que LFI, vous en savez quelque chose, fait preuve de ce genre de procédé.
Alors, la France insoumise, c'est un fait. On a vu aussi que le Bloc central s'y mettait un petit peu. Alors, on a vu le travail commun fait par la députée Violette Spillibou, députée Renaissance et Paul Vanier. Alors, certes, sur l'affaire Betarame, mais plus largement, on voit une porosité entre l'extrême gauche, une porosité intellectuelle entre l'extrême gauche et une partie du Bloc central. Marie de Greffe, lorsque vous avez construit ce dossier, on a pu lire des choses absolument terribles, par exemple sur la défiance en réalité de l'éducation nationale, des pouvoirs publics vis-à-vis justement d'une partie de ces écoles libres.
Oui, enfin moi, ce qui m'a choqué le plus, encore une fois, ce sont les attaques sournoises qui font qu'on va aller chercher. Alors, pour l'enseignement catholique, c'est dès lors que ce sont les signes de la religion catholique qui sont mis en avant, qui existent bien évidemment dans les écoles, puisque ce sont leurs fondements. C'est ça qui va faire l'objet effectivement des attaques. Et ensuite, effectivement, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est très intéressant parce que l'aspect financier, l'école publique coûte effectivement 90 milliards, l'école privée coûte 12 milliards. Mais on va aller se servir de cet argument financier, enfin l'État va aller se servir de cet argument financier pour aller la détruire. Et pour ça, se sert effectivement du Conseil économique et social qui, dans un rapport, demande que le taux de la part de financement par l'État de l'école privée, qui est depuis la loi Debré est de 75%, passe à 50%. Tout cela qui permettrait effectivement de faire 2 milliards d'économies. Mais qu'est-ce que représente 2 milliards d'économies par rapport aux 90 milliards? Et effectivement, si ce projet passait à l'Assemblée et était voté, cela vraiment risquerait d'entraîner des suppressions de postes très importantes dans l'école privée et cela alourdirait encore la facture pour les parents d'élèves qui souhaitent inscrire leurs enfants dans le privé, sachant que ces parents d'élèves payent deux fois. Ils payent une fois via leurs impôts, évidemment, pour financer l'école publique, et ils payent une deuxième fois puisque, bien sûr, ils payent les frais de scolarité correspondant aux 25% restants qui n'est pas pris en charge par l'État. Et donc, effectivement, on sent que, encore une fois, on voit bien que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics veulent asphyxier l'enseignement catholique et l'enseignement libre d'une façon plus générale, que ça soit à travers, effectivement, le projet pédagogique, c'est-à-dire les cours de catéchisme et tout ce qui a fait l'objet des attaques, et on l'a bien vu au cours des 1000 contrôles qu'il y a eu quand même dans les écoles privées sous contrat, mais aussi hors contrat, parce que vous allez pouvoir nous expliquer, une école hors contrat n'est pas du tout une école libre qui fait n'importe quoi. Elle aussi est contrôlée.
En fait, seule chose dont il est exclu, c'est les financements. C'est pour ça qu'on dit hors contrat, il n'y a pas de contrat. Mais pour tout le reste, le socle commun des connaissances, évidemment, s'implique. Ils sont extrêmement contrôlés. Donc le privé sous contrat découvre une réalité que le hors contrat connaissait bien depuis longtemps. Et vous parliez de 1000. En comptabilisant ce dur contrat, c'est 1800 pour l'année dernière. Donc c'est colossal. Et après, on s'étonne qu'il y ait 300 000 personnes sur le 1,5 million de personnes de l'éducation nationale qui ne soient pas des enseignants. Ben, bien sûr, parce qu'il faut des inspecteurs, il faut du personnel administratif pour les déclarations des clés ETP, des milliards de changements. Je l'ai été directeur d'école, donc je l'ai vécu ça.
Directeur
d'école privée hors contrat, situé en banlieue. Et j'ai constaté que tout ça prenait énormément de temps. Et d'ailleurs, Edouard Geffrey ne s'en cache pas. Je vous invite à écouter la commission d'enquête dans le Sénat de mai dernier, où la sénatrice, je tairai sa couleur politique, et monsieur le ministre expriment clairement le fait qu'ils cherchent en fait à étouffer, sous le coup des vérifications, des tracasseries administratives, en fait la société civile qui cherche à apporter une réponse. Puisque je rappelle que nous sommes 26e au classement PISA, et que ce n'est pas les 89 milliards d'euros de l'État qui permettent de sortir de ça.
Alors, on le lit dans Valeurs Actuelles, les candidats passés au crible lorsqu'ils veulent être enseignants. On a eu beaucoup de récits, pas seulement dans Valeurs Actuelles, même dans le Figaro et ailleurs, d'inspections absolument incroyables où vraiment les directeurs d'établissement se retrouvent comme soupçonnés de terrorisme dans les locaux de la brigade antiterroriste, quoi, tout simplement.
J'ai même
on est sur des interrogatoires policiers.
Qui a évoqué le mot de garde à vue. C'est comme si j'étais en garde à vue. Mm. C'est vous dire le niveau, effectivement, d'inquisition.
Et ça, c'est des anecdotes qui se multiplient. Est-ce qu'il y a des craintes pour vous, du coup, que dans les années à venir, justement, ces menaces, ces coups de pression soient réellement mis en exécution avec une multitude de fermetures d'écoles pour des raisons pas toujours très claires.
Sûr, parce que notamment le projet de loi Spielboot prévoit des fermetures pour simple atteinte aux valeurs de la République ou non-respect des valeurs de la République, sauf qu'on se garde bien de les définir. On ne sait pas ce que c'est, ça flotte comme ça dans l'air. Et donc évidemment que tous les prétextes sont bons. Petite anecdote, lorsque j'étais directeur d'école, nous partagions les locaux avec l'inspection académique du département.
C'est cocasse, ça c'est cocasse.
Un mercredi d'humour qui voulait embêter je sais pas qui, mais il passait devant mon bureau pour aller aux toilettes, pour vous dire. Et ben dès qu'il passait dans la grande salle de notre école, qui valorisait le drapeau, le mérite, il y avait un tableau des élèves méritants, il y avait beaucoup de choses de ce type, je les entendais s'horrifier plutôt. Le fait qu'on valorise des élèves méritants. Voilà. C'est des choses qui vont complètement en contradiction avec le pédagogisme de l'éducation nationale, qui préfère les îlots apprenants. Ce sont des vrais termes qu'on retrouve dans les rapports. Les îlots apprenants, parce que vous comprenez, il faut que l'élève soit acteur de son apprentissage. Vous connaissez par cœur ce jargon, mais il existe réellement. Donc, ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui, en réalité, ne se comprennent pas. Je vous donne un autre exemple de ça. L'inspecteur perçoit le privé sous et hors contrat comme étant le refuge des nantis de la terre. Donc, les riches sont dans leur contrat et dans ce contrat, il faut les y débusquer. Donc, ils vont vous dire, attention, vous reproduisez la ségrégation sociale. Sauf que ce qu'on constate dans le sondage qu'on a fait en mai, c'est que 66% des Français sont pour le chèque éducation, c'est-à-dire qu'ils sont pour que tout le monde choisisse son école, qu'elle soit privée, publique, et que l'État finance ça. Et dans le lot, vous avez, c'est collector, 78% des électeurs de la France insoumise qui sont pour cette formule-là. Et 80% des fils d'ouvriers qui sont pour, en fait, pouvoir inscrire leur enfant dans le privé. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc la réalité, c'est que les inspecteurs ne comprennent pas ce monde-là, mais en plus, ils sentent qu'il lui fait de la concurrence et ça leur fait peur.
Et ben, on va peut-être leur donner des éléments de réponse, Augustin Evan, puisque Marie de Grève, vous l'évoquiez justement, les parents payent deux fois, ils payent par leurs impôts, ils financent l'éducation nationale, et en plus, ils font un effort financier parfois conséquent pour payer une scolarité hors contrat à leurs enfants. C'est quoi les désirs des parents pourquoi est-ce qu'ils font cela? Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? Est-ce que c'est par défiance? Est-ce que c'est par projet séparatiste, peut-être, Augustin Yvon?
Alors, je pense que les parents sont d'abord des parents, c'est-à-dire qu'ils ont en vue le bien-être de leur enfant. Et ce ne sont pas des idéologues. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'avais le cas à Mantes-la-Jolie où je travaillais, les familles évitaient la carte scolaire. Ils inscrivaient chez le tonton, ils domiciliaient chez le tonton, enfin, ils faisaient en sorte pour que leur enfant, en fait, ait la meilleure scolarité possible. Donc, les parents, ils sont dans cette démarche de « je veux le meilleur pour mon enfant ». Derrière, c'est sûr qu'il y a différents motifs. Ils se disent aussi « l'État est passé dans un système d'éducation nationale », c'est-à-dire qu'ils prétendent éduquer mon enfant, notamment sur les VARS, notamment sur des sujets extrêmement intimes. Il y a 160 associations qui agissent agréées du ministère qui agissent pour ça, sur des sujets divers et variés. Donc certains se méfient de ça, mais je pense que c'est d'abord et avant tout une question d'école au sens propre, c'est-à-dire d'acquisition des fondamentaux. Ils voient que l'école ne permet plus à leur enfant d'entrer en sixième. Il y a un élève sur sept qui, quand il rentre en sixième, n'a pas acquis le niveau de fin de CE2 en lecture. Donc ça, c'est quand même un élément majeur. Par ailleurs, ils constatent aussi parfois qu'ils n'ont pas le choix, parce que si vous êtes handicapé, si votre enfant est handicapé, peut-être qu'il fait partie des 48 000 élèves qui n'a pas eu d'AESH dans le public. Et si vous êtes dans les campagnes, vous êtes cette petite partie de cette commune sur 4 qui n'a pas d'école sur son territoire.
Ce qui est fou, c'est qu'à une époque, on disait que on reprochait à l'école hors contrat de privilégier, on va dire, les valeurs plutôt que la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que certaines institutrices étaient parfois des mères de famille qui étaient plutôt répétitrices en réalité, qui transmettaient un cours, et l'éducation nationale se tenait encore un petit peu. Et là, on a vu que les écoles libres ont rehaussé énormément leur niveau d'exigence pendant que celui de l'éducation nationale a continué de s'effondrer. C'est peut-être une condition de réussite que vous avez réussi à...
On les accuse de tout, de leur contraire, de toute façon. Moi, on m'a accusé d'être élitiste, on m'a accusé de ne pas avoir le niveau. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la réalité, c'est que l'autre fait peur. Alors que nous ne sommes pas du tout dans une logique du privé ou rien. dans une logique de complémentarité. Et évidemment qu'il y a des choses que seul le public peut faire. Sur les élèves en grande difficulté, en SECPA ou dans les dispositifs ULIS, par exemple, bien sûr qu'il faut la complémentarité des acteurs.
Et si je peux permettre,
pour en complément de ce que vous venez de dire, on cite un sondage IFOP là, dans lequel, qui dit que 64% des Français voient dans la diversification de l'offre un moyen de lutter contre l'échec scolaire. Donc c'est vrai que c'est la première motivation, elle est de lutter contre l'échec scolaire, et bien sûr qu'elle est également ensuite en deuxième lieu dans le retour de l'autorité. Parce que, comme vous le dites, ce sont d'abord des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, et l'une des premières valeurs, c'est le respect. C'est donc le respect de l'autorité, le respect de l'autre. C'est évidemment la sécurité. Donc ensuite, effectivement, on peut décliner, après le niveau scolaire, la recherche par les parents d'élèves d'un maximum, effectivement, de valeurs qui se sont perdues.
Mais,
et pour compléter également ce que vous dites, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, en fait, je me dis la seule chance qu'a aujourd'hui encore l'école libre et vraiment ce en quoi on peut espérer qu'elle perdure, non seulement, mais qu'elle se développe, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à la 1984 et à la grande mobilisation de l'époque contre la loi Savary, aujourd'hui, en fait, il y a une telle prise de conscience que parmi nos gouvernants, en fait, ils ont tous leurs enfants, effectivement, dans des écoles privées, alors la plupart sous contrat ou hors contrat, enfin, en tout cas, dans l'école privée. Donc, on peut se dire que ces gouvernants, eux-mêmes, ce sont des parents et qu'ils savent bien que la fuite du système public s'explique par la chute à la fois du niveau scolaire, mais aussi de toutes ces valeurs. Et donc, on peut espérer qu'il y ait quand même une prise de conscience, mais qui passe par une période très difficile actuelle et où, comme vous le disiez, en fait, nos gouvernants voient dans l'école privée un concurrent déloyal. Et c'est en ça, aujourd'hui, qu'il y a une prise de conscience qui fait qu'on doit, nous, se mobiliser. Et effectivement, le secrétariat de l'enseignement catholique se mobilise pleinement. Il est en train de constituer des réseaux. Il demande à l'appel, donc à l'association des parents d'élèves, de se mobiliser également parce qu'il y a vraiment un danger aujourd'hui. Et que c'est, si on titre à Valeurs Actuelles l'école libre contre-attaque, c'est vraiment parce que l'école libre est menacée.
Augustin Yvan.
Je voulais réagir sur ce que vous dites, les propositions de votre dossier. À la fin, il y a une page avec les différentes propositions pour l'école publique. Je pense à celle de M. Lisnard notamment, qui sont très intéressantes et qui sont alignées avec beaucoup de choses que nous proposons. Effectivement, il y a toute une frange de la classe politique qui se rend compte que l'espèce de distinguo privé-public n'est plus possible et qu'il faut maintenant une approche pragmatique, ne serait-ce que parce que les 1000 milliards de dettes, ou je ne sais plus combien il y en a, qui nous arrivent dessus, vont obliger à faire des coupes. Donc, ils sont dans une approche très pragmatique, ou comment faire pour que moi, j'ai pu profiter d'une certaine éducation. C'est le cas de M. Geffray, par exemple. Je rappelle qu'il y a eu des enfants dans le public et dans le privé. Madame Oudéa Castéra,
mais c'est le même qui, au Sénat, déclare « Je ne laisserai jamais le privé se développer aux dépens du public ».
Oui, c'est une forme de schizophrénie permanente. Quoi. Oui.
Exactement, une dichotomie politicienne qu'ils mettent en place parce que c'est comme ça qu'ils restent en place et puis parce qu'ils exercent un pouvoir sur une administration qui est composée de fonctionnaires qui représentent une grosse masse électorale et ils ne peuvent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Donc en fait, il y a des enjeux de fonctionnariat qui ne veut pas lâcher prise et puis il y a surtout des enjeux de tactique politicienne, parce que je pense que le constat, tout le monde le fait, et votre dossier le résume très bien.
Et nous ne sommes pas à l'éducation nationale, c'est pourquoi nous accueillons les bons élèves et les mauvais élèves, puisqu'Étienne Darjac est arrivé en retard. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Excusez pour ce retard.
Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Nous sommes toujours avec Valentin Gore, aussi du service politique de Valeurs Actuelles. Valentin, vous aviez une question, une remarque à faire sur le sujet de la rentrée.
D'abord, réagir à ce que vous disiez sur les ministres qui ont, pour beaucoup, c'est vrai, leurs enfants à l'école privée. Ça fait un peu penser aux dirigeants soviétiques qui avaient des magasins réservés à Moscou où on trouve absolument tout, alors qu'ailleurs c'était évidemment la grande difficulté. Je crois savoir aussi qu'il y a un phénomène qui se développe dans le privé, c'est une part importante, alors c'est évidemment difficile à mesurer, d'élèves par exemple de familles musulmanes qui placent leurs enfants à l'éducation dans des écoles privées catholiques, ça existe, là aussi parce qu'elles cherchent le meilleur pour leurs enfants. Est-ce que vous le constatez ?
Alors tout à fait, je l'ai vécu ça parce que en fait le cadre, l'autorité et la méritocratie, c'est des choses qui parlent beaucoup aux familles issues de l'immigration pour certaines d'entre elles. Toute une frange cadre moyen, on va dire, qui peut accéder à ce type de scolarité. Et comme les demandes de l'école privée sous contrat en termes de religiosité sont assez faibles la plupart du temps, elles arrivent à concilier ça avec leur ensemble de valeurs. Après, c'est aussi un accélérateur d'intégration. Pour le coup, pour avoir travaillé en banlieue, j'ai bien vu que par le mérite scolaire, on apprend beaucoup de choses aux enfants, patrimonialement, culturellement, et c'est une machine à intégrer et à assimiler exceptionnelle. Donc oui, il y a ce phénomène qui se fait, qui à mon avis est une chance, dans la mesure où le sous-contrat ne perd pas sa spécificité et son caractère propre. Et alors là, c'est au directeur d'oser la chose, je dirais.
Étienne Dorjac.
Alors c'est parfait, je rebondis précisément sur ce que vous venez de dire. Moi, je suis d'une génération qui a fait sa scolarité il y a une quinzaine d'années à peu près. Et à l'époque, pour les gens de mon milieu, on va dire de la droite catholique provinciale, faire sa scolarité dans le privé sous contrat, c'était parfaitement suffisant. Et les cas de scolarité hors contrat étaient extrêmement rares, surtout limités aux sphères, on va dire, traditionnalistes.
Oui, ou qu'il y avait de sérieux handicaps scolaires et qui n'étaient plus acceptés que dans le hors contrat. Mais on en reparlera, Étienne, si vous voulez.
Non, je constate aujourd'hui que dans mon même milieu, la situation dans le privé sous contrat s'est sans doute dégradée. J'ai l'impression que l'écart qu'il y avait entre le privé sous contrat et le public s'est réduit, et donc le hors contrat devient de plus en plus populaire, et je le constate dans ma propre famille où mes sœurs aînées ont mis leurs enfants dans le hors contrat alors que nous avons tous été éduqués dans le sous contrat. Donc est-ce qu'on constate une espèce de rapprochement du privé sous contrat et du public qui participe aussi à l'évolution, à l'explosion de l'école sous hors contrat.
Est-ce que le sous-contrat d'hier n'est pas le hors-contrat d'aujourd'hui, quelque part?
Vous avez résumé ça avec tout le talent qui vous caractérise.
C'est joliment dit, dans deux ans ou l'année prochaine, nous aurons une de valeur actuelle qui sera l'école hors-contrat contre-attaque, et j'en serai grave.
Parce qu'ils auront eu la peau de l'école privée sous-contrat et que vous serez les prochains sur la liste.
Dans ce numéro, effectivement, on consacre un encadré au succès de l'école libre, donc hors-contrat, parce que c'est vrai que c'est le phénomène de la rentrée. Bien sûr que l'école privée sous contrat se porte très bien, mais l'école privée hors contrat a une santé insolente.
Et c'est vrai que de toute façon, nous sommes dans une logique de... C'est le grand frère du privé pour nous. C'est-à-dire qu'on a de très bons rapports avec eux. On a une liberté d'action qu'ils n'ont pas parce que c'est une plus grosse machine et parce qu'ils sont liés par l'argent, ce qui n'est pas notre cas. Après, ce que je constate, c'est que sociologiquement, le public du hors contrat a changé, effectivement. Vous l'avez très bien dit. Et aujourd'hui, il y a toute une bourgeoisie catholique provinciale qui se dit quand même « j'aimerais bien que mon enfant puisse aller à la messe et la messe hebdomadaire dans son établissement catholique » ou qu'il ait des cours de religion qui ne soient pas juste des cours d'histoire de Jérusalem en l'an zéro. Enfin, un enseignement vraiment religieux, et notamment j'ai parlé de Levars tout à l'heure, il y a des questionnements importants aussi sur qu'est-ce qui va arriver par le biais de ce cheval de Troie. Donc je pense que beaucoup de familles passent le cap du fait de financer encore plus, parce que bon, c'est entre 250 et 500 euros par mois, quand même.
Quelle est la part,
Marie de Grèche, je vous en prie.
Quelle est la part des écoles catholiques parmi le réseau des écoles hors contrat?
Oui, c'est 17% de l'ensemble. La grosse majorité, c'est 70%, sont des écoles alternatives. Dedans, c'est très large. Vous avez du Montessori, vous avez du bilingue, vous avez... Donc le hors contrat est plus petit en termes de nombre d'établissements. En revanche, en termes de grosse taille, sont beaucoup des familles nombreuses, ou sont des gros établissements. Je pense par exemple à Saint-Dominique au PEC ou à d'autres établissements de ce type, plusieurs centaines d'élèves, là où les écoles alternatives sont plus petites, c'est 50 à 80 élèves en général.
Mais c'est-à-dire qu'en termes de nombre d'établissements, alors c'est vrai quand on dit école libre, école sous contrat, tout le monde a un imaginaire d'une école catholique, en réalité, elle est minoritaire.
Elle est complètement minoritaire.
En termes de structure, après en termes d'élèves, peut-être que comme il y a plus de grosses écoles catholiques, peut-être que ça se rééquilibre.
Mais c'est vrai qu'en fait, le hors contrat, et c'est ce qui fait sa force, c'est une émanation de la société civile. Moi, dans mon travail, je fais des rencontres inter-écoles hors contrat en province. J'ai en face de moi des zadistes, des cathotradis de la Frate Saint-Pidis, des gens qui font de l'équithérapie, des bilingues, et encore, on n'a pas l'école américaine où c'est 16 000 euros le mois, je ne sais plus les tarifs idiots, mais vous voyez l'idée, on n'a pas le haut du panier, mais c'est très divers. En fait, c'est vraiment la société civile qui s'exprime, et c'est là où le politique a du mal à saisir cette réalité-là.
Étienne Dorjac.
Alors, est-ce qu'il est vrai de dire que même si les écoles catholiques dans ce monde-là sont minoritaires, est-ce qu'il est vrai de dire que ce sont elles qui concentrent l'essentiel des attaques, ou est-ce que les réseaux dont vous parlez, Montessori, tout ça, sont aussi ciblés par le législateur?
À la marge, il y a des petites vidéos pour dire c'est très bien d'apprendre Montessori, mais on n'y apprend rien. Mais grosso modo, c'est surtout le cliché serre-tête Versailles hors contrat, parce que c'est plus facile et parce que du coup, on est sûr de taper dedans. Mais beaucoup de... Paul Vanier notamment serait très étonné des personnes que je rencontre. Moi, j'ai scolarisé des familles, et une famille qui m'a dit Ah ben nous on votait les fiches, bah, bienvenue dans leur contrat.
S'il y a que moi. Donc, n'hésite pas à la faire remonter.
Exactement, enfin, ouais. J'en parle à Paul Vanier si je le rencontre. Donc la réalité c'est qu'il y a des caricatures et des schémas qui sont bêtes, mais je pense qu'il y a une réalité, c'est que tous ceux qui vont dans leur contrat ont un objectif, retrouver le réel. Que ce soit par la nature, les fondamentaux, l'apprentissage, ils ont tous en commun à sortir d'une espèce de bah, on l'a très bien dit avec l'exemple de Moscou tout à l'heure, d'une espèce de machine idéologique qui est devenue folle.
Et effectivement, et pour sortir des clichés, si je peux me permettre, merci Marc, dans le réseau Espérance Banlieue, effectivement, quelle est la part des enfants très défavorisés et qui peuvent expliquer ou illustrer pour les auditeurs, effectivement, le fait que ce réseau d'écoles Espérance Banlieue est ouvert à tous et permet à des enfants défavorisés, ou bien, même si on pousse encore plus loin, permet... donne une place très importante à la mixité sociale, ce qui répond à, justement à des objectifs du gouvernement. Est-ce que vous pouvez évoquer ce sujet
Bien sûr, j'ai pas les chiffres exacts là de 2026. Ce qui est sûr, c'est que lorsque j'avais moi dans une classe, j'étais d'abord instituteur de CM1, CM2. Là, je tiens beaucoup au terme d'instituteur. Et bien, j'avais en face de moi.
Vous aviez des élèves, pas des apprenants, c'est
exactement,
ça.
Exactement, on n'était pas en îlot. et ce que je constatais, c'est que j'avais pour notre objectif à la fin, c'était d'avoir un tiers d'enfants directement issus du Val-Fouet, le quartier où je travaillais, qui était donc catégorie socio-professionnelle très basse, avec souvent des parents de plusieurs origines différentes, avec des salaires quand il y en avait. Enfin voilà, comme c'était très peu cher, ils pouvaient venir sans problème. Le deuxième tiers, là, on visait juste le quartier d'à côté. Là, c'était des gens qui avaient pu louer une maison, qui commençaient à, voilà, monsieur et madame travailler sur des travaux d'infirmière ou des petits emplois, mais qui leur permettaient quand même de payer la scolarité. Et puis, le troisième cercle qu'on essayait d'avoir, c'était le centre-ville. Et pour vous dire que d'abord, les gens qu'on attirait, c'était des gens qui vraiment étaient issus de catégories populaires et qui étaient très heureux, justement, qu'on leur offre une offre qui n'avait pas.
Mais ce troisième tiers, vous arriviez à les faire venir justement parce que quand on habite dans certains quartiers, c'est parfois effectivement, alors sans donner du crédit forcément à la France Insoumise, mais c'est aussi parfois pour éviter de frayer avec des habitants d'autres quartiers, quoi. Donc c'est, ouais. Il peut y avoir une réticence de la part de certains parents à envoyer leurs enfants à l'école avec une population qu'ils avaient potentiellement, on ne sait pas, pour chercher à éviter.
En fait, si vous avez un bon niveau scolaire, une bonne réputation et une bonne équipe, vous pouvez, moi j'avais vraiment, il y a des familles qui faisaient 20 minutes pour venir, alors qu'on était dans le quartier de Montagnoli que personne ne voulait côtoyer. Donc je pense que les parents, ils sont pragmatiques. Voilà. Ils sont prêts à aller à l'essentiel et s'il faut prendre la voiture. Donc je pense que c'est une mauvaise façon, comme d'habitude, de vouloir casser le séparatisme scolaire. Il y en a, hein, ça existe, il ne faut pas se mentir. En disant, bah, on va nous-mêmes en répartir les gens. Non, il faut permettre à la société civile, il faut organiser l'école pour qu'elle soit attractive, notamment dans ces quartiers.
On a eu, il y a eu une sortie médiatique il n'y a pas longtemps, le nouveau grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, qui a eu cette phrase très catégorique, les écoles hors privé, hors contrat, n'ont pas leur place dans la République. Augustin Yvon, si vous voulez lui répondre, je suis sûr qu'il nous écoute.
Mais je suis ravi d'avoir l'avis du Grand Orient. Pendant longtemps, ça a été secret. Ils viennent à la lumière, tant mieux pour eux. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de dire peu importe les plans du Grand Orient en réalité. Parce que plus les années avancent et plus l'influence du Grand Orient qu'on a paré de mille vertus s'atténue. Et puis de toute façon, je vais vous dire, le hors-contrat, il fait front contre vents et marées depuis 20 ans. Il est passé de 3 écoles à 2157, en scolarisant 135 000 élèves, sans argent, sans volonté politique, sans rien. Donc à un moment donné, l'article du Figaro du Grand Orient de France, je vais vous dire, ça ne laissera pas de traces dans l'histoire.
Marie de Greffe. Est-ce que justement ces attaques selon vous vont continuer? Alors on a vu par exemple dans le privé sous contrat, on a vu un directeur diocésain dans l'enseignement assez offensif, justement prêt à monter au créneau. Est-ce que les partisans de l'école libre, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat, pour vous ont conscience des enjeux qui pèsent sur eux?
Je pense qu'effectivement, là, tout l'enjeu de Guillaume Prévost, donc du secrétaire de l'enseignement catholique, est de mobiliser ses troupes et bien au-delà, donc d'élargir. Et je pense que là, en cette rentrée, il y a un vrai travail qui est fait auprès des chefs d'établissement pour effectivement s'organiser pour faire face aux futures attaques. Parce qu'effectivement, on sait très bien que les contrôles vont se poursuivre dans les écoles privés, comme ça a été le cas l'année dernière, effectivement, ils vont continuer à se renforcer. On sait très bien que forcément, on va se saisir de toutes les affaires possibles et inimaginables pour aller, encore une fois, asphyxier l'école privée, soit sur le fond, c'est-à-dire sur son enseignement pédagogique, soit d'un point de vue financier, et que pour ça, il y a vraiment besoin d'une mobilisation qui soit extrêmement forte. Et c'est vrai que les parents qui s'engagent en mettant leurs enfants dans des écoles privées, il faut qu'ils s'engagent au-delà à aller, à se mobiliser pour effectivement permettre au chef d'établissement de faire corps et autour, encore une fois, du secrétaire de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, qui ne se cache pas. Hein. Aujourd'hui, il est face effectivement à une fronde et auquel il doit faire face. Et encore une fois, il ne s'agit pas de polémiquer. Et donc, je l'ai rencontré. Il a clairement dit qu'il ne voulait pas rentrer dans la polémique, mais qu'il était nécessaire, dans le calme, de rassembler ses troupes pour effectivement faire face aux futures attaques qui ne vont pas manquer cette année.
On a un témoignage d'un auditeur qui nous écrit : j'étais professeur des écoles stagiaires dans un IUFM de banlieue parisienne en 1996, dans une zone très défavorisée, et les conseillers pédagogiques m'avaient reproché fermement de demander aux enfants de lever la main pour prendre la parole. Dès lors, il fallait vivre la classe dans un brouhaha continu. Dans ces conditions, aucun des enfants ne pouvait atteindre les objectifs d'apprentissage fondamentaux, à savoir lire, écrire et compter. À mon avis, c'était là un objectif recherché par l'éducation nationale. Alors, on ne sait pas si l'objectif de l'éducation nationale était de rendre les enfants bêtes, mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'ils font tout pour y parvenir.
Là-dessus, j'ai un témoignage intéressant, parce que vous savez, nous recevons beaucoup de rapports d'inspection des écoles, nous les accompagnons juridiquement. Et j'ai un verbatim sur une organisation spatiale de classe structurée en rang, avec des places attribuées selon des critères comportementaux, témoigne toutefois d'une gestion fortement normative de la classe. Cette organisation, associée au discours recueillir auprès des élèves, entre parenthèses, travailler comme principale activité appréciée à l'école, laisse peu de place à l'expression des choix, des goûts et l'initiative personnelle. Des témoignages comme ça, il y en a, et puis c'est sur 25 pages. Et à la fin, ça se finit par une mise en demeure, sous peine de 3 ans d'emprisonnement et 6 000 euros d'amende. À chaque fois, c'est ce fameux étouffement dont on parlait tout à l'heure. On vous prend un jargon pédagogisant, rousseauisto, tout ce que vous voulez, et on vous dit attention, vous êtes d'affreux réactionnaires. Si vous continuez comme ça, on vous emprisonne, on vous met une amende. Évidemment, c'est très rare que ça soit abouti. Mais le pauvre directeur de la société.
Oui, mais c'est dingue de commencer direct par ça, quoi, de dire attention, vous allez prendre 3 ans de tôle parce que vous triez les élèves selon leur
le fait qu'ils soient pénibles. Nous, on a une règle, c'est la règle des 3-8. Souvent, les inspecteurs, c'est à 8 h du matin, ils arrivent à 8, et pendant 8 h, ils passent la journée à inspecter l'école, et vous avez en face d'eux 40 élèves. Que maintenant ils vont avoir le droit de recevoir seuls, sans présence d'adultes. Alors
ça, vous avez raison, c'est vraiment un grand.
C'est terrifiant, ça.
Oui, c'est terrifiant. Ouais, et ça, pour le coup, de nouveau, on retrouve Paul Vanier qui tire effectivement comme il peut. Et effectivement, donc pour être très clair vis-à-vis des auditeurs, dorénavant, lors des contrôles, les inspecteurs auront le droit de recevoir les enfants seuls, sans adultes, qu'ils soient de la famille ou de l'école, et c'est vrai que c'est la porte ouverte à un grand n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas faire confiance à la parole d'un enfant. On l'a vu lors des affaires, notamment dans les écoles parisiennes. Honnêtement, faire confiance à un enfant qui n'a qu'une seule envie, c'est de quitter son établissement, c'est...
Et surtout qui est beaucoup plus perméable aux pressions que pourraient faire peser sur lui tous ces adultes rassemblés pour lui faire cracher le morceau, entre
bien
guillemets.
Sûr.
Enfin, on est sur quelque chose qui est juridiquement, en plus, est impossible. Enfin,
et il y a un dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, et c'est comme ça qu'on justifie la cohérence éducative. Si l'enfant voit que le professeur et le directeur ne sont pas légitimes pour l'inspecteur, évidemment, vous ruinez tous les efforts d'éducation.
Saper l'autorité à croire que c'est un objectif. Merci beaucoup, Augustin Yvan, directeur du développement de la Fondation pour l'école, d'avoir été à nos côtés. Merci, Marie de Greffe. Vous restez avec nous si vous le souhaitez pour la suite de l'émission. Restez avec nous, en tout cas, chers auditeurs. Nous vous revenons dans quelques instants pour de nouveaux sujets. À tout de suite.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois. Marc Hainaut.